Bonjour et bienvenue à Dive In With Me de la Fondation Aimé, lors duquel nous parlons des bienfaits de la musique dans toutes les différentes langues du pays. Merci à Radio Ara de nous avoir donné l'opportunité de présenter les différents avantages de la musique. Aujourd'hui, nous rencontrons Didier Schneider, directeur du Centre Cigale LGBTIQ+, ainsi que Franklin. Franklin est demandeur de protection internationale et s'identifie en tant que membre LGBTIQ+. Depuis septembre, la Fondation Aimé a un projet en collaboration avec le Centre Cigale. Lors de Empowering Voices, les participants, qui sont tous demandeurs de protection internationale, écrivent une chanson avec le rappeur Maz et le beatmaker Patrick Miranda. Le Cigale est un centre professionnel au Luxembourg qui offre des conseils et un soutien à toute personne ayant des questions concernant l'orientation sexuelle, le coming out ou l'identité de genre. En effet, les personnes LGBTIQ+, DPI, donc demandeurs de protection internationale, sont dans une situation particulièrement à risque d'exclusion. Dans cet épisode, nous évoquerons plusieurs aspects en lien avec la musique. Le rôle des musiques pour dire, via des codes, ce dont les personnes LGBTIQ+, ne pouvaient pas parler dans leur pays d'origine, mais aussi la difficulté et le besoin de mettre en place des projets de groupes artistiques et musicaux pour libérer la parole de ces personnes lors de leur arrivée au Luxembourg, où les personnes des pays ne se sentent pas libres d'évoquer ces sujets dans leur centre d'accueil. Soundcheck-in. Donc bonjour Didier, bonjour Franklin. Quelles sont donc vos musiques préférées?
Je vais commencer, Franklin, tu feras. Après, moi c'est plutôt ce qu'on appelle l'indie folk. Donc, voilà, des musiques comme First Aid Kit ou Jessica Hoop ou Annie DiFranco, voilà. Et après, j'aime bien aussi ce que fait Dan Kendall sous Lisa Gerrard, voilà, notamment quand ils vont sur des côtés un peu ethniques. Voilà. Voilà.
Et moi, j'aime la musique Zaïwa. Zaïwa, ce sont les Congolais. J'aime vraiment leur musique, j'aime vraiment leur style musical. Et mon artiste préféré, c'est Fally Ipupa. Et il y a une chanson camerounaise aussi qui me plaît beaucoup. Chualito, oui. Si mes tiens réservés, les boulots, bas sont bicavo.
Famille balembi, consolé, naponas amourant. Déjà. Donc aujourd'hui, on parlera des bienfaits de la musique et comment la musique peut aider les personnes à s'identifier ou à exprimer leur orientation sexuelle. Mais avant, commençons peut-être par présenter ce que fait le Cigale.
Le centre LGBTIQ+, et Cigale est un centre qui existe depuis 2002. C'est un centre qui a été fondé par Rosa Lutzebusch en 2002, qui a été indépenditisé. Enfin, voilà, ils se sont séparés en 2018, si ma mémoire est bonne. Moi, je suis depuis le 1er septembre 2020 donc directeur de ce centre. Donc, nous avons donc au centre travaille 5 personnes, voilà, et nous sommes un centre qui est conventionné par le ministère de la Famille, de l'Intégration à la Grande Région, à la fois pour les salaires et pour nos actions. Et notre action se distingue, elle se divise en 4 piliers que je peux rapidement présenter, mais qui permettent vraiment de bien comprendre ce que nous faisons. Nous avons un premier pilier qui s'appelle soutenir et accompagner. Et ce pilier soutenir et accompagner se distingue en deux sous-piliers. On va dire, il y a une partie autour de l'accompagnement socio-éducatif, l'accompagnement individuel. On va aider des personnes à traverser des étapes de vie qui peuvent être en effet des fois des coming out, des fois ça peut être l'accès à l'homoparentalité par exemple. Ça peut être aussi pour les demandeurs de protection internationale et les bénéficiaires de protection internationale, pouvoir les aider, voilà, à la fois prenant en compte l'ensemble du contexte de la migration, de la présence au Luxembourg et de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Et nous avons aussi des groupes de soutien, donc c'est toujours ça, c'est le deuxième sous-pilier de ce pilier 1. Et donc, nous avons des groupes de personnes trans, des groupes qui est plutôt à destination des jeunes. Donc, c'est un groupe qui est sans distinction de genre ou d'orientation sexuelle, qui s'appelle les Unicuir, qui est une grosse action pour nous, les Unicuir. Un groupe aussi pour les elles-mêmes, donc pour les mamans et futures mamans lesbiennes, pareil pour les papas et futurs papas gays. Et nous sommes actuellement en train de créer un groupe, en effet, à destination des demandeurs et des bénéficiaires de protection internationale, voilà, qui est en train de tout doucement de voir le jour. Donc un groupe trans et un groupe de parents d'enfants trans aussi. Voilà, ça c'est notre premier pilier. Encore d'autres groupes, hein, mais je vais pas tous vous les donner. Nous avons un deuxième pilier qui est formé et informé. Donc nous avons dans ce pilier, nous formons les professionnels de l'action sociale, médico-sociale, éducative, socio-éducative, médicale, etc. sur la diversité d'orientation sexuelle et de genre. Voilà, pour ceux qui sont reconnus. Et puis, nous assurons aussi des workshops pour les adolescents et les jeunes adultes, voilà, dans le cadre de la lutte contre les discriminations, l'homophobie, voilà. Donc, c'est aussi ce que nous faisons dans ce deuxième pilier. Dans un troisième pilier, qui s'appelle « Bâtir et empouvoirer ». Donc, « empouvoirer », c'est la version française de « empowerment ». Et donc, voilà, nous essayons de favoriser des synergies communautaires, de l'empowerment dans des actions, des projets autour de la culture, de l'art, du sport, voilà, c'est très varié, qui sont à destination des fois et de la communauté, mais aussi parfois du grand public, où on va viser en effet pour lutter contre des préjugés, des représentations sociales qui peuvent être la cause d'homophobie, par exemple, ou de transphobie. Donc ça, c'est notre troisième pilier. Nous avons un quatrième pilier où nous essayons, à notre mesure, à partir de notre activité, puisque nous sommes vraiment au plus près de la communauté, et des gens de la communauté dans leurs besoins, d'essayer d'être une image de ce que vit la communauté, des besoins de la communauté, des demandes de la communauté, et on essaye un peu de la mettre en forme, de structurer cette image, peut-être un peu de la théoriser, de la conceptualiser pour donner un avis aux acteurs publics, politiques, aux acteurs de la vie sociale aussi, la vie civile, les partenaires, voilà. En fait, c'est d'essayer que cette expérience serve à quelque chose. Voilà, ça, ce sont nos quatre piliers. Nous sommes ouverts du mardi au samedi, de midi à 17h. Il y a un accueil libre. Tout le monde peut venir. Et une personne qui, à un moment, a besoin d'un entretien peut venir. Elle sera directement reçue par quelqu'un pour faire le point sur sa situation. Voilà, ça, c'est très important. On essaye d'être réactif. Et si quelqu'un appelle, il peut être reçu dans la minute.
Juste pour rappel, le centre Cigale est situé à 16 rue Notre-Dame. En ville, et vous trouvez toutes les informations nécessaires sur cigale.lu. Je pense que c'est quelque chose de très important de se noter. Didier, vous avez un peu déjà parlé des situations des BPI ou des PI, mais j'ai vu aussi sur votre site que depuis 2017, vous proposez des formations pour les encadrants devant les institutions d'accueil. Pourquoi est-ce que ce projet est-il né? Comment est-ce que la situation a-t-elle évolué depuis 2017? Ou encore, quelle est la situation actuelle dans les institutions d'accueil de réfugiés?
Alors, le projet vient de la nécessité, de la demande aussi des professionnels qui travaillent avec des DPI et des BPI d'être formés aux diversités d'orientation sexuelle et de genre. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette action spécifique. Alors, on forme tous les professionnels de l'action sociale et médico-sociale, enfin voilà, comme je vous ai dit, et donc y compris les personnes qui travaillent avec des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de protection internationale, parce que à la situation que peuvent rencontrer l'ensemble des DPI et BPI, hein, c'est-à-dire les traumatismes qui sont vécus dans le pays d'origine, le traumatisme de la migration, avec donc tous le stress post-traumatique, enfin voilà, qui sont répertoriés, étudiés, analysés, théorisés par les sciences humaines, se rajoutent aussi des complexités qui sont liées en effet à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, voilà, qui rend des choses parfois un peu complexes sur le territoire pour eux. Alors, ils ont vécu déjà des choses qui étaient complexes, peut-être que Franklin pourra aussi en parler un peu, mais dans leur pays, la migration, le parcours migratoire est extrêmement compliqué. Quand ils arrivent, c'est compliqué aussi pour eux de bien appréhender qu'ils sont dans un pays européen qui accepte et qui reconnaît les droits des personnes LGBTIQ+. Et souvent, on est obligé, on leur dit toujours, ouvrez-vous, livrez-vous, vous n'êtes pas en danger ici. Et finalement, ce qui avant était une faute pénale et qui, dans certains pays, pouvait risquer la mort pour eux, est aussi, au Luxembourg, un des éléments qui peuvent leur permettre de bénéficier de la protection internationale. Donc, c'est parfois un peu compliqué parce qu'ils sont ancrés dans des mécanismes où il faut qu'ils cachent leur orientation sexuelle et tout d'un coup, alors ils migrent, ils comprennent pourquoi, ils savent pourquoi ils viennent au Luxembourg. Certains nous disent même que voilà, c'est lié au Luxembourg, c'est lié au Premier ministre. Enfin voilà, ils ont comme ça, Luxembourg a une image un peu LGBTIQ plus friendly, qui est logique. Mais ils sont ancrés dans des mécanismes tellement inconscients de se cacher, de donc c'est difficile pour eux. Et en même temps, on leur dit vous êtes ici en sécurité et on peut vous protéger au titre de votre intention sexuelle ou de votre identité de genre, mais en même temps, ils ne sont pas en sécurité dans leur foyer d'hébergement. Mm-hmm. Parce que ces foyers d'hébergement, ils hébergent tout type de population qui sont pas forcément là pour les questions d'orientation sexuelle ou d'identité de genre et qui sont pas toujours, c'est des cultures qui sont pas toujours LGBTIQ plus friendly. Donc, c'est très compliqué pour eux, je pense, que de se dire je dois m'ouvrir, je dois m'ouvrir au service de l'État pour bénéficier de la protection internationale parce que je suis en danger dans mon pays, parce que je suis gay, je suis lesbienne ou je suis trans ou voilà. Mais dans mon lieu d'hébergement, je cours un danger. Si je suis trop ouvert, si je suis trop out, je cours un danger. Et ça, on le voit, des menaces de mort, etc. Voilà, parce que c'est des lieux d'hébergement qui acceptent toutes les personnes qui sont demandeuses de protection internationale.
Du coup, c'est vraiment un paradoxe et c'est certainement des situations très difficiles à vivre. Je ne sais pas, Franklin, si vous souhaitez rajouter quelque chose à la réponse de Didier.
Oui, ce qu'il a dit, vraiment, surtout pour nous, les demandeurs de protection internationale, c'est vraiment très, très important quand nous arrivions ici que nous trouvons quelque chose de ce genre. Moi, particulièrement, quand je suis arrivé ici au Luxembourg, je n'imaginais pas que quelque chose de ce genre existait quelque part dans le monde entier. Pour moi, je devais vivre caché toute ma vie. Je devais cacher mon orientation sexuelle toute ma vie. Pour moi, c'était à vie. Et vraiment, je suis très content du fait que quelque chose de cela existe. J'ai profité de cette occasion pour les remercier infiniment. Vraiment, merci beaucoup. Merci.
Mais du coup, Didier, comment est-ce que vous faites pour informer les personnes qui vivent dans des institutions d'accueil que vous existez? Parce que rien que sensibiliser à votre existence peut déjà être une situation assez dangereuse, non?
Les professionnels, en fait, c'est aussi pour ça que nous formons les professionnels qui accueillent et accompagnent les demandeurs de protection internationale ou les bénéficiaires. C'est-à-dire, on les forme pour que sur le terrain, ils puissent mesurer la complexité dans lesquelles sont les demandeurs, les DPI, les BPI. Ça, c'est une première chose. Et aussi qu'ils connaissent notre organisation et qu'ils sont en mesure d'orienter les personnes. Parce que, en fait, les DPI, les BPI échangent peu entre eux parce que, à qui ils vont s'outer, en fait? S'ils s'outent, il y a toujours le risque que la personne à qui ils vont s'outer ne soit pas sur le même terrain. Et je sais, là, on va recréer un groupe, en effet, de soutien, un groupe de parole pour les DPI, BPI. Mais le centre LGBTIQ plus Cigale l'avait déjà tenté. Je crois que c'est à la suite du projet Arc-en-Ciel, hein, le livret, qu'on avait créé. Mais le souci, c'est que les DPI nous disaient bien, enfin, les personnes nous disaient, mais ils ne voulaient pas venir parce qu'ils avaient peur qu'on les out, en fait. Parce que c'est des gens qu'ils vont rencontrer dans leur foyer et que ils ont toujours, si quelqu'un d'autre le sait, qui est leur camarades de foyer, est-ce que la personne va avoir à garder le secret? S'ils sont tout seuls à garder le secret, ils sont ici dans le secret du Cigale, c'est différent. Mais si on fait un groupe où il y a 6, 7, 8, 10 personnes, le risque d'être outé est plus grand et ils encourent alors un vrai risque au centre d'hébergement. Donc c'est un vrai problème. Donc c'est pour ça qu'on passe en effet par on communique officiellement avec les professionnels pour leur dire voilà, nous existons, n'hésitez pas à vous envoyer des gens. Mais ça commence vraiment, ça reste assez flou. Ça va. Ils pensent quand même à nous orienter, mais des fois, les professionnels ne le savent pas. Mm-hmm. Parce qu'en fait, les DPI ne vont pas le leur dire. Parce qu'ils, comme je vous ai dit, ils sont ancrés dans d'anciens mécanismes et ils ont peur. Ils se disent, si je le dis, est-ce que je ne vais pas être mal jugé par le professionnel? Parce qu'on est sur 20 ans, 25 ans, 30 ans d'avoir peur, d'avoir honte. Mm-hmm. Et que, donc, en fait, ils ont, même s'ils ont bien conscience qu'ils savent consciemment et intellectuellement que le Luxembourg n'est pas un pays qui condamne l'homosexualité et qui reconnaît les droits, mais on l'a dans des mécanismes inconscients, en fait, qui c'est très difficile de casser.
Et oui, donc, comme vous l'avez dit, donc, la situation dans les structures d'accueil n'est pas facile à vivre de toute façon, car il y a une grande variété de personnes, il y a une grande variété de cultures. Et puis, bien sûr, ce n'est pas facile de briser les mécanismes qui existent depuis 30 ans et de tout à coup faire confiance à de nouvelles personnes, car la confiance est quand même quelque chose qui se construit du jour au lendemain. Donc, comment est-ce que... Ou qui ne se construit pas, pardon, du jour au lendemain. Donc, comment est-ce que vous faites pour développer des groupes de support qui ne stigmatisent pas et qui, en même temps, arrivent donc à réunir des personnes?
Là, on va relancer ce groupe-là, hein, puisque, comme je l'ai dit, hein, ça n'avait pas, il y a quelques années, ça n'a pas pu être mis en œuvre parce que, voilà, les pays, les bénéficiaires avec qui ont discuté étaient intéressés, mais ils n'avaient peur de venir. C'est un projet qu'on va mener en partenariat avec les organisations qui travaillent avec les DPI. Alors, notamment Croix-Rouge et Caritas, parce que dans les deux acteurs principaux, il y en a d'autres, hein, mais on va essayer de créer quelque chose de vraiment en partenariat pour justement faire quelque chose de dynamique, qui soit pas stigmatisant et si nous avons en effet la connaissance ou du moins l'expertise entre guillemets hein, des éléments LGBTIQ+, eux ils ont l'expertise de la protection internationale, de la migration. Donc l'objectif c'est vraiment de créer un projet ensemble qui soit le plus efficace, le plus efficient, le plus opérationnel, le plus pertinent, enfin tout ce que vous voulez possible. C'est quelque chose qui va se faire en partenariat et à grande échelle, on va dire.
Donc la fondation, donc elle développe et construit des projets artistiques et j'ai vu que le Centre Cigale le fait aussi. Et nous, quand on le fait, surtout pour des personnes réfugiées, avec la Croix-Rouge ou Caritas, on est souvent questionné sur le fait si on propose aussi des projets pour des personnes LGBTIQ+. Et c'est quelque chose à laquelle on ne sait pas vraiment répondre, bah, ou à laquelle on pourra répondre maintenant parce que nous avons développé le projet Empowering Voices ensemble. Mais jusqu'à présent, c'était toujours un peu une situation difficile pour nous parce que d'un côté, on ne souhaite pas stigmatiser les personnes, on ne souhaite pas non plus exclure des personnes de par leur orientation sexuelle. Donc, on ne l'avait pas vraiment vu de ce côté-là. On se disait, OK, on fait quelque chose pour tout le monde dans un centre de réfugiés, mais jusqu'à présent, on ne proposait pas vraiment de projet spécifique. Donc, vous, comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous pensez qu'un projet artistique peut être peut-être stigmatisant?
Les actions qui pourraient être menées, en effet, pour cette communauté-là, LGBTIQ+, DPI-BPI, doivent être faites au Cigale. Et je comprends en effet que vous avez raison. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est-à-dire que le côté stigmatisant, j'ai l'impression qu'il existe si vous faites une action dans un foyer. Et chez nous, c'est un petit peu différent. Il ne le sera pas parce que tous les bénéficiaires sont de la communauté, déjà, ou liés à la communauté, parce que nous sommes aussi les parents, hein, nous sommes aussi les parents d'enfants trans ou les parents de... qui ont envie de soutenir leur enfant. En tout cas, voilà, nous sommes un centre qui est ouvert et qui accueille la communauté et les personnes autour de la communauté, et que il n'y a pas de stigmatisation pour nous de BPI, DPI, puisque la communauté LGBTQ+ est inclusive par définition. Pour l'instant, en effet, nous n'avons pas de projet spécifique destiné aux DPI, BPI, pour X raisons qui sont historiques, mais aussi par manque de moyens humains, très clairement. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de projets, à un moment, j'ai une équipe et que le temps de travail de mon équipe, elle est ce qu'elle est, voilà. Mais en effet, on a des projets quand même artistiques et culturels et sportifs. Et là, en effet, c'est souvent des projets qui sont alors généralistes à toute la communauté LGBTIQ+. Vous voyez, pour l'instant, on prend le positionnement qui est le même que vous. Finalement, vous vous adressez au DPI, au BPI, dans lequel est inclus la population LGBTIQ+. Et nous, on s'adresse à la communauté LGBTIQ+, dans lequel est inclus les DPI. C'est un positionnement proche. Mais c'est vrai que mon objectif, du moins, c'est quand même on arrive à des actions spécifiques quand même, des pays, parce que ce sont des problèmes spécifiques, des des parcours qui sont spécifiques, des dynamiques de, d'histoire personnelle, des dynamiques psychiques, des enchevêtrements de situations qui sont spécifiques. Voilà. Donc, il y a aussi ce côté qu'on s'adresse à un collectif et généraliste, oui, mais il faut aussi des actions un peu plus spécifiques parce que cette population-là rencontre certes des problèmes identiques que les autres membres de la communauté, mais aussi des problèmes qui sont plus spécifiques, qui ont besoin d'être traités spécifiquement. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé du groupe de parole spécialisé, donc pas destiné à cette population-là.
Recommend yourself. Donc, Didier et Franklin, est-ce que vous avez des recommandations pour les écouteurs de Dive In With Me?
Du Geizkragen, kreist in einen Leihwagen. Streiten wir um Farbe, Cousin, meinen wir keine Schreibwaren. Wir sind wie Dry Sift, ihr so wie Kotflecken. Ihr habt Luxusprobleme, wir schlafen auf Hochbetten.
Je t'aime jusqu'à la mort. Zonga lana, zonga lana, mon bébé. Zonga.
On venait d'écouter un extrait de Fally Ipupa, Amouré. Et nous sommes de retour à Dive In With Me. Aujourd'hui, nous parlons avec Didier Schneider, directeur du Centre Sigal, et Franklin. Peut-être une question pour Franklin. Est-ce que vous êtes venu au Luxembourg de propre choix ou un peu par hasard?
Bon, je peux dire que c'est le destin qui m'a amené ici parce que je n'avais pas vraiment le choix. Mais je peux dire que c'est le destin, c'est par hasard que je me suis retrouvé ici.
Donc, Franklin, vous m'avez dit que vous venez d'Afrique. Est-ce que là-bas, vous avez écouté de la musique parce qu'elle était codée ou est-ce que la musique vous a pu aider dans votre chemin?
Déjà, pour moi, pour nous et pour moi plus particulièrement en Afrique, c'est pas bien d'écouter des musiques qui parlent de l'homosexualité. Sinon, ils sauront que tu es intéressé et ça pourrait te créer des problèmes. Du coup, nous, on écoute ce que tout le monde écoute et c'est comme ça. Et pour moi, plus particulièrement, j'aimerais bien, maintenant que je suis ici et que je suis libre, je vais puis maintenant écouter la musique qui parle de l'homosexualité, qui dit beaucoup de choses, oui. Mais par contre, avant, je ne le faisais pas.
Donc même si vous n'avez pas pu vraiment écouter de la musique un peu codée ou qu'elle était un peu restreinte, est-ce que la musique constitue quand même un soutien pour vous? Est-ce qu'elle peut être un outil d'expression de votre identité?
Quand on a 13, 14, 15 ans, voilà, et qu'on découvre qu'il existe Madonna, qu'il existe Lady Gaga, qu'il existe, on se sent moins seul. Et finalement, les personnes de la communauté LGBTIQ+, en Afrique, entre autres, hein, sans doute ailleurs, hein, n'ont pas accès à ce soutien-là. Et cette musique, elle est aussi un soutien, parce qu'à un moment, on a des paroles qui sont portées par Lady Gaga, par Christina Aguilera, par Mylène Farmer. Enfin voilà, on se moque beaucoup de ces icônes gays parce que voilà, c'est ça. On peut se moquer, bien sûr qu'on peut se moquer, je peux le comprendre. Ou on peut ne pas aimer la musique, mais je peux aussi tout à fait le comprendre. Mais quand on est jeune, c'est un soutien aussi. Tout d'un coup, quelqu'un d'autre met des mots et des mots chantés sur notre situation où on est. Quand on découvre ça, on est enfermé, on se sent seul. Vous parlez de lutter contre l'isolement des personnes, mais aussi un isolement un peu psychique. C'est-à-dire on peut être très entouré, mais si on est tout seul dans son identité, qu'on peut la partager à personne, c'est compliqué. Et quand on est un jeune, y compris en Europe, on a 13-14 ans, ben c'est très soutenant, c'est très aidant, c'est très réconfortant.
Et Franklin, donc est-ce que vous connaissez quand même des chansons codées? Est-ce qu'il en existe? Est-ce que vous avez pu entendre des chansons codées dans votre pays d'origine?
Je n'ai pas bien compris la question.
Est-ce qu'il y a des musiques que toi tu connaissais en Afrique, oui. Qui, n'importe qui les écoutait, oui. Se disait ok, ça parle de tout et de rien, mais que l'artiste avait voulu faire un code. Par exemple, je n'ai plus le nom, mais je peux te donner un exemple. Un des gagnants de l'Eurovision luxembourgeois, d'ailleurs, dans les années 60, a fait une chanson sur un amour caché, que personne ne voulait de cet amour, etc. Et en fait, tout le monde, quand les gens écoutaient, ils pensaient que c'était un homme et une femme, et que juste leur amour était condamné pour X raisons, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être ensemble, pas de la même famille, enfin, tu vois. Et en fait, le chanteur, mais ça, personne ne le savait, c'est parce qu'il était gay. Et en fait, quand il parlait d'amour interdit ou d'amour caché, il parlait de relations entre hommes. Mais pour le public, il a gagné l'Eurovision parce que les gens, dans les années 60, qui étaient très homophobes, ils n'ont pas compris. Mais les personnes gays, ils ont tout de suite compris qu'on parlait de eux. Enfin, est-ce que ce type de chanson en Afrique existe? Il y a des chansons en Afrique qui parlent que quand le public l'écoute, ils se disent, OK, ça parle de, c'est très général, mais les gens de la communauté, ils disent, ah, c'est une chanson pour nous. Est-ce que tu as déjà entendu ce type de chanson-là en Afrique?
Oui,
c'est votre question,
oui,
c'est ça, hein, ça.
Oui, oui, quelque chose qui s'est passé, je crois, en 2013. Mm-hmm. J'étais encore plus jeune avec l'artiste que j'aimais beaucoup, Fally Ipupa. Lui, il avait chanté, il a parlé de mon meilleur. Et la rumeur, il y avait des rumeurs un peu de partout, 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 partout. Oui. À ce moment, j'étais encore très jeune. Oui. Oui, je crois que ça. Oui, c'est ma première fois, c'était ma toute première fois d'entendre tout de ce genre. Et depuis ce jour, j'ai plus, je crois plus quelque chose de ce genre a encore existé. J'ai compris exactement de quoi il voulait parler. J'ai compris que c'était un soutien pour nous. J'ai compris qu'il voulait même que nous on sache que lui, il est de nous et que vraiment, il ferait tout son possible. Lui, il fera tout son possible pour nous donner, pour nous remonter un peu le moral de temps en temps. Oui. J'ai compris que vraiment, j'ai compris son message, j'ai compris ce qu'il voulait dire.
Encore une fois, tu ne me réponds pas. Tout semble banal, mais sans toi là, tristesse de mon part.
Merci à Didier et Franklin pour cette conversation très intéressante. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le Centre Cigale, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram ou aller sur leur site cigale.lu. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Donc, David With Me est un show par la Fondation Aimé, soutenu par la André Loche Fondation. Merci aussi à Radio Ara de nous soutenir, d'aider cet épisode. Et merci à Etapan pour le jingle. Vous pourrez aussi écouter cet épisode sur Spotify et sur toutes les autres plateformes de streaming. Merci et à bientôt.